en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. L'histoire commence par un message sur Facebook. Quelques sympathiques compliments, une marque d'intérêt, des mots au fond plutôt banals. Et pourtant, le prélude d'une vertigineuse descente aux enfers, d'un torrent de boue dévastateur, d'une avalanche de haine et d'humiliation. C'est au cœur de cette véritable machine infernale, celle du cyberharcèlement, que nous emmène la journaliste, dramaturge et romancière Myriam Leroy. Son deuxième roman s'intitule Les yeux rouges. Il est paru aux éditions du Seuil. Et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Myriam Leroy.
Bonjour.
Il y a deux personnages principaux dans le roman que le lecteur découvre par petites touches au fil des pages. Deux personnages qui eux-mêmes d'ailleurs se découvrent en parallèle, également au fil de votre récit et au fil des messages surtout qu'ils envoient sur les réseaux sociaux et notamment dans un premier temps donc sur Facebook. Il y a Denis et puis il y a la narratrice. Alors justement, la narratrice, on apprend successivement qu'elle est journaliste, puis qu'elle travaille à la radio. Alors évidemment, on se dit que la narratrice, que vous ne nommez pas, se prénomme en réalité Myriam et que si cette histoire est un roman, elle est basée sur des faits réels. Vrai ou faux ?
Oui, vrai, basée sur des faits réels, c'est vrai. J'ai cherché dans ma vie différents épisodes de harcèlement, parce qu'en tant que femme journaliste, j'ai été exposée à différents épisodes de harcèlement dès le début de ma médiatisation, dès que j'ai commencé à apparaître, à la connaissance des gens.
Donc vous travaillez à la radio en Belgique ?
Oui, je travaille à la radio en Belgique. Donc j'ai une petite notoriété, mais petite, hein, circonscrite quand même au public qui écoute la radio en Belgique. Mais c'est suffisant en fait d'apparaître à la connaissance des gens pour traverser différentes mésaventures. Ben, mésaventures, je fémise beaucoup. Hein, parce que...
Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Denis, il existe ?
Alors Denis est un personnage composite que j'ai bâti avec... un personnage principal qui a traversé mon existence, qui sert d'armature au récit, et sur lequel j'ai été plaqué des tas de choses vécues par ailleurs et aussi vues dans la vie de mes consoeurs, la vie de mes copines et puis la vie sur le net, tout simplement.
Alors, à la fin du roman, Myriam Leroy, on ne va pas révéler évidemment le contenu, mais à la fin du roman, il y a enchâssé dans le roman un récit, une nouvelle qui s'appelle Elle aussi les yeux rouges, donc qui porte le même titre que le livre. On ne va donc pas révéler la teneur, pas révéler la chute, mais est-ce qu'on peut dire que c'est cette nouvelle-ci qui a servi de matrice à l'ensemble du roman ?
Peut-être inconsciemment, mais en tout cas pas de manière travaillée. En fait, c'est un roman qui porte, je crois, sur la dépossession de la voix, puisque j'ai choisi un dispositif narratif où la narratrice est hors champ, en fait. Ses sentiments, ses affects et sa douleur sont situés hors champ, le lecteur ne peut que les imaginer, et pendant tout le roman, pratiquement, elle est privée de sa définition d'elle-même. Et à un moment donné, dans un sursaut d'élan vital, presque à la fin du roman, elle décide de se réapproprier sa vérité, et de dire sa vérité, et là elle parle en jeu, et c'est un jeu qui parle de jeu, alors qu'avant c'était un jeu qui parlait du il, qui parlait du Denis, parce que vous dites qu'il y a deux personnages, mais en fait il y en a surtout un, c'est le personnage de Denis, c'est le personnage du bourreau.
Mais alors pour la narratrice, est-ce que cette nouvelle qui a une vertu thérapeutique, cathartique, on sent vraiment qu'elle a besoin d'écrire, qu'elle a besoin de mettre ses mots sur ses souffrances, donc ça c'est pour la narratrice. Est-ce que ça a été aussi votre cas ? Est-ce qu'il y a justement cette dimension-là aussi dans le fait que le lecteur puisse tenir ce roman entre ses mains aujourd'hui ?
Je pense pas.
Vous n'avez pas écrit pour exorciser tout ça ?
Non, je crois que j'ai écrit pour utiliser une matière que j'avais à disposition et un savoir que j'avais par la force des choses pour avoir été confronté à ce type d'événement.
Donc être harcelé, c'est romanesque.
En tout cas, le harceleur est probablement un personnage romanesque parce que je trouve qu'il raconte assez bien l'air du temps, surtout celui-là, parce qu'il est quand même composé de toute une série de haines et d'obsessions qui se manifestent en roue libre partout dans les médias, en politique, sur les réseaux sociaux. Et puis c'est un méchant. C'est toujours intéressant, les méchants, de construire des personnages de méchants.
Alors justement, Denis, on apprend qu'il est employé administratif dans une entreprise pharmaceutique. Il est passionné de cinéma, dit-il. Il adore Romy Schneider. Comment est-ce qu'il rentre en contact avec la narratrice ? Le point de départ ?
Le point de départ, c'est simplement un email qu'il lui envoie. Non, un message privé sur Facebook qu'il lui envoie un jour pour faire connaissance.
C'est un auditeur ?
C'est ça, c'est un auditeur lambda. Il se présente comme un admirateur, qui la suit beaucoup, qui sait beaucoup de choses sur elle, alors qu'elle doit certainement tout ignorer de lui forcément, puisque c'est un anonyme. Et voilà, ça commence sur un ton badin, par quelques compliments. C'est relativement agréable, en fait. Il la flatte. Sauf que dès le début, on sent quand même que le type est un peu déplacé.
Oui,
toujours.
Quand même. Alors, ouais. Alors, les messages, ils sont parsemés d'émojis, d'émoticônes, hein, de langage SMS, de gifs aussi. Il y en a un petit peu moins, mais enfin, il y en a un ou deux quand même. Et ça donne tout de suite une impression de réalité. On a tous l'impression d'avoir reçu ce genre de message ou même d'avoir écrit des messages de ce format-là. Alors, vous auriez pu, Myriam Leroy, choisir de les mettre dans une graphie particulière, de les écrire en italique, par exemple, pour les sortir du texte général du roman. Vous auriez pu mettre les dessins aussi des émoticônes. C'est pas du tout le choix que vous avez fait. Pourquoi ?
Parce que, en fait, ce récit est la manière dont j'ai voulu retransmettre la manière dont la narratrice métabolisait ce qui lui était adressé. Pour montrer aussi que ça passait, c'était digéré en fait, qu'il y avait une vraie personne qui recevait ses messages, qui recevait ses compliments, mais puis très vite ses attaques, ses menaces et ses photomontages orduriers. La métabolisation de cette violence était quelque chose que je trouvais important de montrer. C'est pour ça que tout est sur un même pied. Les images sont décrites, les émojis sont décrits, tout est décrit parce que quand on reçoit quelque chose, on se le décrit à soi-même dans sa tête.
Nous sommes page 13 de votre roman.
C'était gentil de lui avoir répondu. Vraiment, il en était très heureux. Même si j'avais mis le temps, mais vieux motard que jamais, emoji qui pleure de rire, I met his day et sans doute his week. Il se doutait bien que je devais être sollicité de toutes parts et il s'attendait à passer inaperçu avec sa bouteille à la mer. Denis se sentait privilégié. C'était pas tous les jours qu'on pouvait papoter avec une star. Même s'il se doutait que je réfuterais cette manière de me désigner, il maintenait « j'étais bel et bien une star ». Qu'allait-il bien pouvoir m'écrire à présent pour conserver mon intérêt ? Des blagues ? Il n'en connaissait qu'une, celle du zoophile qui entrait dans un bar. Lol. Des compliments ? Il présumait que j'en recevais déjà des pelletés et que ce n'était certainement pas la basse flagornerie qui pouvait singulariser qui que ce soit dans la nuée de mes prétendants. Tiens, en parlant de nuée, il avait assisté à une murmuration d'étourneau sur la grande route en rentrant chez lui. Savais-je qu'on disait murmuration ? N'était-ce pas sublime ? Il en aurait pleuré. Du ballet de ces oiseaux. Il ne manque que l'adagio d'Albinoni en fond sonore. Qu'avais-je envie de savoir ? Si d'aventure j'avais envie de savoir quelque chose à son propos ? Lui, il était terriblement curieux. De tout. De moi. De tout sur moi. De la vie que je menais, de la marque de mon après-shampoing, de mon opinion sur le conflit israélo-palestinien, sur la bagarre entre pro et anti-cacahuètes dans les M&M's, de ma pointure UK, de tout quoi. Pour dire vrai, il s'emmerdait comme un rat au taf. Ses collègues étaient d'un sinistre, personne à qui parler, personne pour se marrer. Il vivait pour ainsi dire littéralement le jour de la marmotte. Chaque semaine était une photocopie de la précédente et il ne faisait maintenant même plus semblant de rester éveillé. Là par exemple, il sortait d'un roupillon. Il avait des techniques, des planques, depuis quelque temps il faisait la sieste au bureau après le repas. Il devait bien le reconnaître, d'un point de vue intellectuel, il était sous-stimulé. Longtemps, il en avait pris son parti. Le côté répétitif de la tâche et l'absence d'interaction vivifiante lui avaient permis de se forger une vie intérieure. Au fond, l'ennui avait été son université. Il lui avait donné le loisir de penser, de creuser, de progresser dans l'arborescence infinie des questions existentielles. Mais aujourd'hui, il en avait sa claque. Il avait envie, slash besoin, d'un sparring partner, comme à la boxe. En l'occurrence, d'une sparring partner. Moi, une adversaire et surtout une alliée. Quelqu'un qui aurait le niveau, quelqu'un d'intransigeant qui placerait la barre haut, qui esquiverait et renverrait la balle. Une dose de dope mentale. Il avait un putain de besoin d'une activité épistolaire qui reconnecte les circuits. Inconsciemment, à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il lui faisait passer ce casting. Et à tous les coups, le candidat échouait. Jusqu'à ce jour béni où j'étais apparue dans son radar. Il ne voulait pas m'effrayer, mais il avait misé tous ses jetons sur mon numéro. Acceptais-je le défi ? Top ai-je là ? Emoji point ?
Voilà, on voit très bien le style, hein, Myriam Leroy, on l'entend plus exactement. Vous utilisez donc d'un bout à l'autre du roman ce qu'on pourrait appeler le style à direct libre, hein, voilà, comme on dit dans les livres de grammaire. Vous rapportez donc les mots de Denis sans guillemets, ce qui donne tout de suite une dimension très très réelle, très vivante à votre écriture, une impression vraiment assez particulière parce que le lecteur est à la fois très proche de la narratrice et il est en même temps tenu un peu à distance, mais pas trop non plus. Comment est-ce que vous avez justement réfléchi à cette question de la distance par rapport aux mots du personnage de Denis ?
En tout cas, il me fallait de la distance, c'est sûr, parce que je pense qu'écrire un roman comme ça, en jeu, qui parle de jeu, ça aurait ouvert des vannes d'incontinence émotionnelle qui auraient, je pense, trop pris en otage le lecteur et auraient peut-être suscité des réactions de rejet. Or, j'avais un propos quand même politique à défendre dans le livre et j'avais envie de convaincre. Maintenant, en fait, c'est pas en procédant par essai-erreur que j'ai trouvé la bonne distance, comme un petit chimiste en laboratoire, en fait. À un moment donné, l'idée de ne produire que du discours rapporté comme ça et métabolisé par la narratrice, que les discours des autres, écrits et de temps en temps des discours oraux, ça m'a semblé être une astuce de narration qui permettait de résoudre tous les problèmes et qui permettait aussi de coincer le lecteur comme la narratrice est elle-même coincée dans sa situation.
Voilà, on se sent vraiment très très proche de la narratrice, sauf que Myriam Leroy, on n'a pas les réponses de la narratrice directement. Hein. On a accès uniquement aux réactions de Denis, aux réponses de la narratrice. Donc ça aussi c'est intéressant parce que ça laisse aussi une place à l'imagination, ça laisse aussi, et là c'est peut-être aussi la perversion, pas de Denis cette fois-ci, mais la perversion de la romancière que vous êtes. Ça laisse aussi une place aux interrogations, voire aux fantasmes, aux soupçons.
Et à la perversité du lecteur.
Aussi.
Parce qu'en fonction de son point de vue, de sa misogynie plus ou moins inconsciente aussi, le lecteur peut se dire... Ah bah, est-ce qu'elle l'a pas bien cherché? Le lecteur peut imaginer qu'elle aurait répondu des choses qui l'auraient précipité, en fait, dans le trou dans lequel le jette Denis. Or, on n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Et peu importe, justement. C'est un peu comme ces filles qui sont agressées sexuellement dans la rue, à qui on dit oui, mais qu'est-ce que tu portais? Mais peu importe ce qu'elles portent.
Voilà, sous-entendu, tu portais une jupe, tu l'as un petit peu cherché quand même, quoi.
Et donc ici, c'était aussi pour jouer sur ce côté, mais peu importe ce qu'elle lui répond.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
VMDN avec Myriam Leroy pour son roman Les Yeux Rouges, paru aux éditions du Seuil, roman que 5 de nos auditeurs pourront gagner tout à l'heure en répondant à la question du jour, que je vous poserai donc dans quelques minutes. Alors c'est extrêmement prenant, c'est très facile à lire parce que votre écriture est vraiment très alerte, très vive, très directe, et donc je pense que le roman peut toucher vraiment n'importe quel lecteur. Et c'est cette écriture qui petit à petit donc nous fait entrer avec votre narratrice dans ce piège qui va se refermer sur elle. Alors c'est un petit peu comme la marée montante, hein. C'est très lent au départ, c'est très progressif, mais c'est inexorable et de toute façon on sait qu'on finira par être submergé et on voit petit à petit que Denis commence à faire quelques reproches. Alors ça commence vraiment sur l'air de la taquinerie, puis sur un ton de plus en plus sérieux, après il y a des hauts, il y a des bas, il se met vraiment à souffler un peu le chaud et le froid. C'est un processus de manipulation mentale en fait que vous êtes en train de nous décrire.
Oui, en fait, le cyberharcèlement, c'est du harcèlement tout court, et donc il s'appuie sur les mêmes ressorts que le harcèlement au sein du couple, au sein de l'entreprise. C'est juste le moyen qui est différent, quoi. On dit souvent qu'on est harcelé sur Internet, mais on n'est pas harcelé sur Internet. Internet, c'est le moyen. Quand on reçoit une lettre anonyme d'un corbeau chez soi, on dit pas qu'on est harcelé sur sa boîte aux lettres. On est harcelé dans sa propre vie. Et c'est aussi pour ça que je fais intervenir les yeux, une partie du physique de la narratrice et le corps de cette narratrice qui va bientôt s'engager dans une longue ridicule errance médicale pour montrer que le cyberharcèlement, c'est du harcèlement tout court et que donc il influe et il brise des vrais gens, des vrais corps en fait.
Alors le cyberharcèlement, un phénomène que deux journalistes décortiquent dans un livre qui est sorti hier aux éditions Pygmalion, Cyberharcèlement bien plus qu'un mal virtuel, un livre signé Anaïs Condomine, bonjour.
Bonjour.
Et Emmanuel Friedman, bonjour.
Bonjour.
Merci à toutes et deux de nous rejoindre. Vous citez dans le livre une enquête Opinionway réalisée en France pour le quotidien 20 minutes en janvier dernier, enquête selon laquelle 53% des 18-30 ans ont déjà subi au moins une forme de cyberviolence. C'est donc effectivement un vrai problème de société que Myriam Leroy met en lumière dans son roman. Alors vous l'avez lu toutes les deux, ce roman, Anaïs Condomine par exemple. Est-ce que l'expérience vécue par la narratrice entre en résonance avec les témoignages que vous avez étudiés pour mener votre enquête?
Tout à fait, il rentre en résonance avec ces témoignages-là, avec le mien qui m'est propre aussi, puisque j'ai été également victime de cyberharcèlement, cette fois sous la forme de raid. Oui, moi j'ai été très touchée quand Myriam Leroy a parlé d'être dépossédée de sa voix, parce que c'est vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on cherche par ce mécanisme-là à faire sortir de l'espace public, qu'est Internet, des voix qui sont déjà marginalisées, en l'occurrence celles des femmes, et celles des femmes donc victimes de sexisme, mais aussi de racisme, d'homophobie, et j'en passe.
Mais alors, on va revenir très précisément et très longuement sur les victimes dans un instant, parce que je crois que c'est important, évidemment, d'utiliser d'ailleurs le mot victime, parce que c'est pas si évident que ça pour tout le monde. Mais je voudrais qu'on parle justement du harceleur pour commencer. Cette dimension de manipulation mentale, cette dimension de stratégie, Emmanuel Friedman, elle est toujours présente, parce qu'on peut dire le harcèlement, ça peut être juste la répétition d'une attaque. Est-ce qu'il y a forcément stratégie, tactique, manipulation, il y a forcément un scénario qui se construit dans la tête du harceleur?
Je pense qu'il y a beaucoup de types de harceleurs, qu'il n'y en a pas qu'un seul. Effectivement, il y a des gens qui suivent dans les raids, il y a des gens qui se contentent, je devrais même pas employer ce mot-là, mais qui suivent effectivement les attaques, qui attaquent par bande, par...
Mais ça fait bien de faire comme celui qui attaque.
Voilà, alors là, de plus en plus, effectivement, même les gens qui étaient plutôt modérés se mettent effectivement à attaquer à plusieurs sur des sujets...
Un phénomène de foule, un phénomène de bande, quoi.
Notamment sur des sujets qui était plutôt calme à une époque, l'écologie ou ce genre de choses, étonnamment. Et après, je pense que aussi derrière les attaques, il y a aussi, nous on a eu pas mal de témoignages de gens qui ont été harcelés, et quand ils essayaient de rentrer en contact avec leur harceleur, le harceleur n'avait pas forcément la notion de savoir qu'il y avait une véritable personne derrière. Pour elle, c'était un journaliste, un ministre, voilà, en fait une représentation et pas une personne. Et effectivement, quand on arrivait à lui faire prendre conscience que derrière cette représentation de son travail, hein, puisque être ministre, être une femme, c'est simplement un travail, et derrière il y a bien une personne, ça arrivait que le harceleur s'excuse ou arrête au moins.
Voilà. Mais ça veut dire que le harceleur n'a pas toujours le sentiment qu'on s'attaque à une personne physique, c'est-à-dire que sous prétexte qu'il s'adresse à lui ou à elle dans un monde virtuel, a l'impression que l'attaque elle-même est virtuelle.
Alors voilà, c'est ça. Ouais,
non, mais
pas de différence entre le monde virtuel, il n'existe pas. Hein. On est vraiment le Internet, Facebook, Twitter, c'est le monde, c'est la réalité.
C'est voilà. C'est vrai que c'est vraiment le propos qu'on essaie de dérouler dans ce livre, c'est que les réseaux sociaux, c'est la vraie vie, et qu'il faut arrêter de dire voilà, je me suis fait attaquer sur Internet, mais heureusement dans la vraie vie, etc., c'est pas pareil. C'est la même chose aujourd'hui, on est toutes et tous connectés quasiment. On utilise, moi personnellement par exemple, c'est mon outil de travail, les réseaux sociaux. Comment je fais pour travailler quand je suis harcelée par mon outil de travail ou sur mon outil de travail? Donc voilà, Internet, c'est la vraie vie. À partir de là, effectivement, ce qu'il y a de tangible, c'est l'écran du smartphone, l'écran de l'ordinateur.
Est-ce qu'il y a un profil type du cyberharceleur?
Alors nous, on s'est posé la question, effectivement, à un moment. Alors bon, pour ceux qui sont harcelés, en tout cas, effectivement, il y a beaucoup de femmes, il y a quelques hommes aussi, hein, quand même. Enfin,
mais là, je parle du cyberharceleur.
Oui, alors,
là,
justement,
mais il y a plus de harceleurs masculins.
On s'est posé la question. Alors c'est vrai que nous, on est tombé que sur des harceleurs masculins, mais on dit pas qu'il y a pas des femmes qui harcèlent. Hein.
D'ailleurs, mais on n'a pas de statistiques fiables qui nous permettent de dire.
Bah d'ailleurs, ce serait peut-être une enquête à lancer auprès des sociologues de savoir qui auprès des harceleurs, qui sont-ils. Mais effectivement, nous, on a plutôt vu des harceleurs masculins. Ouais.
C'est plutôt, donc plutôt des hommes, âge moyen, milieu social particulier,
ça concerne vraiment toutes les touches. C'est compliqué de mettre un portrait robot du harceleur, puisque ce sont des gens qui nous entourent. Ça peut être votre cousin, ça peut être votre papa, ça peut être votre frère, parce que ce sont les gens qui nous entourent dans le monde. Donc à partir de là, effectivement, je pense qu'il faut arrêter de voir déjà ces gens-là quand ils sont sur les forums. On a beaucoup, dans le cas de Nadia Dam, par exemple, tristement emblématique, on a beaucoup parlé du forum jeuxvideo.com. Et souvent, j'ai trouvé qu'on avait l'intention de dresser de ces personnes-là le portrait de jeunes hommes complètement asociaux, enfermés dans leur chambre, etc.
Et ça, on a vraiment la preuve que c'est pas vrai. C'est vraiment des gens souvent très insérés dans la société, qui ont un travail, qui ont des amis.
Voilà, et c'est le cas de Denis. Hein. Myriam Leroy, il a un travail, il a des amis, pas seulement des amis au sens virtuel du terme, mais vraiment des amis
il a des enfants.
Dans la vie. Vous l'avez chargé quand même ce personnage, parce que bon, on sent tout de suite qu'il est un peu macho, et puis on découvre quand même au fil du récit qu'il est plus que ça, quoi, qu'il est clairement sexiste, qu'il est antiféministe, il a tout un discours sur la virilité qui, selon lui, est en train de se perdre. Il est réac, il est raciste, il est anti-droit de l'homiste, il est anti-écolo, il est franchement facho, quoi.
Oh, c'est un petit facho ordinaire, mais
c'est une caricature, ça peut pas exister un être humain comme ça.
C'est absolument pas une caricature, bien au contraire. Et c'est ce genre de profil, et à mon avis Anaïs, ça sera bien d'accord avec moi, pullule sur les réseaux sociaux. Alors peut-être que eux forcent le trait sur les réseaux sociaux pour se draper dans, je sais pas, une imagerie de chevaleresque ou quelque chose peut-être de cartoonesque. J'en sais rien, je ne connais pas, je ne comprends pas leurs intentions. J'ai jamais réussi à me mettre à leur place. Mais en tout cas, ces types qui cumulent toute cette panoplie de haine envers les minorités et les minorisés et l'air du temps, finalement, ils sont partout et ils sont extrêmement nombreux. Et
donc vous n'en avez pas fait un salaud pour des raisons romanesques.
Mais alors, pour vous dire la vérité, je pense même avoir édulcoré le personnage par rapport à ceux qui ont vraiment traversé mon existence, parce que sinon, le lecteur n'y aurait pas cru. Il serait dit, c'est un monstre. Or, je ne veux pas qu'on croie que ce sont les monstres qui harcèle, parce que c'est monsieur tout le monde qui harcèle. Et je dis monsieur tout le monde à dessein.
Mais ça va loin, ça veut dire que n'importe qui, donc monsieur tout le monde, peut devenir un monstre ou se comporter comme tel sur un réseau social.
Manifestement, oui. Alors, d'où ça vient? Moi, mon sentiment, c'est qu'il y a un effet d'habitacle, en fait, quand on est derrière son clavier, comme quand on est dans sa voiture et qu'on est quelqu'un de parfaitement poli, on peut se lancer dans des invectives hyper ordurières, par rapport au conducteur d'en face. Parce qu'on se sent distancié, mis à distance par l'habitacle. Et ben, je pense que c'est le sentiment qu'on a quand on est sur Internet.
Anaïs Condomine.
Oui, on parle souvent de l'anonymat comme étant effectivement le coupable idéal. Alors voilà, on est anonyme, donc on peut harceler, on se sent protégé. C'est vrai que quelque part l'anonymat peut encourager, mais ce n'est pas du tout le vrai problème, puisqu'il faut savoir que l'anonymat réel sur Internet n'existe quasiment pas. Ou alors, faut être un hacker super puissant. Et dans ce cas-là, je pense qu'on a d'autres choses à faire que de harceler des journalistes ou des féministes en ligne. C'est le pseudonymat qui existe. En vrai, si la police, si Facebook veulent mettre les moyens pour vous retrouver, ils vous retrouveront.
Oui, mais on parlera tout à l'heure de la traque et de la légalisation, enfin de la loi, de la protection ou pas des victimes de harcèlement. Mais ce cocktail à la fois politique extrémiste, anti-écolo, anti-féministe et même anti-femme d'une façon générale, c'est un cocktail que vous avez rencontré effectivement au cours de votre enquête.
Oui, bien sûr, en grande majorité. Mais je tiens aussi à préciser que ça peut effectivement prendre tous les visages et l'effet de masse qu'on rencontre sur les réseaux sociaux, je pense notamment à Twitter en particulier, je pense que tout le monde peut tomber dans le piège et qu'on est toutes et tous responsables, a fortiori quand on a des comptes un peu, on va dire, quand on a plus de 10 000 followers par exemple, on a une responsabilité, toutes et tous, à ne pas jeter des gens en pâture.
Bon, mais le discours sexiste, Emmanuel Friedman, le discours, cibler les minorités d'une façon générale, c'est une figure classique du cyberharcèlement.
Effectivement, ça, c'est sûr que quand on est une femme, alors une femme noire en d'autant plus, ou issue de n'importe quelle autre minorité.
Alors les femmes, c'est une majorité.
Les femmes, c'est une...
majorité minorisée.
Mais là, c'est sûr qu'on risque beaucoup plus et on retrouve souvent effectivement les mêmes arguments. Enfin, notamment, par exemple, on a interviewé Cécile Duflot et Najat Vallaud-Belkacem,
ministres.
Qui ont été quand même des cibles terribles de cyberharcèlement. Hein,
Être une femme... Une femme féministe et en plus une femme politique, ça fait trois tards absolument inacceptables.
Cécile Duflot, en disant moi j'étais une jeune femme qui avait du pouvoir avec des seins et des fesses et là ça devenait insupportable pour tout le monde et en plus je revendiquais le fait d'être plutôt bien dans ma peau sans être un modèle de féminité et c'est vrai que ça a excité vraiment des tas de harceleurs derrière elle quoi.
Elle était si timide et si fragile, introvertie et si naïve. Au milieu de 30 élèves, trouver sa place n'était pas si facile. Pour elle de se faire des amis était quasi impossible. Tu connais les gosses entre méchants quand ils ont trouvé leur cible. Ça commence par un surnom, puis les mauvaises blagues s'enchaînent. Ils mettent du sel sur les plaies de ses complexes avec tellement de haine qu'elle vit avec la peur quand elle voit son cartable. À la surprise générale, elle commet l'irréparable. Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile, tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. L'époque du du virtuel, des tutos pour du rimmel. Snapchat, Snapchat, dis-moi qui est la plus belle. Pour elle, être aimée c'est d'être likée. Donc elle s'entraîne devant sa glace à faire un selfie. Filtre beauté, quelques cœurs sur sa photo. Mais surtout des commentaires, des moqueries, des critiques, des insultes, des émotis pervers. Toute cette violence gratuite devient pour elle insupportable. Donc elle est insupportable et comme elle irréparable. Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile, tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Tu me partages tes rêves et tes doutes. Que tu saches que ton père sera toujours là pour arracher les mauvaises herbes sur ta route. Qu'importe ce que dit ou pense le monde, tu es la plus forte et la plus belle à mes yeux. Ne te laisse jamais rabaisser par les autres. N'oublie pas qu'elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Autrement si fragile, tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée.
Fragile, soprano dans VMDN sur RFI avec la romancière Myriam Leroy qui publie Les Yeux Rouges aux éditions du Seuil et les journalistes Emmanuel Friedman et Anaïs Condomine pour leur livre Cyberharcèlement, bien plus qu'un mal virtuel aux éditions Pygmalion. Alors Fragile, chanson donc de soprano sur le harcèlement scolaire qui commence dans la cour de récré et qui dérive ensuite sur Internet. Vous évoquez, Emmanuel Friedman et Anaïs Condomine, le suicide de la petite Marion Fraisse en 2013 qui s'est pendue. Elle avait 13 ans. Il y a clairement eu dans la prise de conscience un avant et un après cette affaire.
En tout cas pour le harcèlement scolaire, clairement. Enfin, le harcèlement scolaire maintenant est quand même relativement bien encadré. Enfin, je dis pas hein, que c'est pas difficile encore dans les collèges, dans les lycées.
Il y a des affaires très récurrentes. Bien sûr.
Mais là, il y a beaucoup d'outils qui ont été mis en place, notamment un numéro vert là qui fonctionne correctement. Enfin, j'ai eu l'occasion de l'appeler, donc oui, ça fonctionne. Et puis effectivement. Après, on essaye beaucoup de mettre en relation le harceleur, le harcelé. Voilà. Il y a beaucoup d'outils maintenant qui fonctionnent assez bien, et c'est un des harcèlements peut-être qui est le mieux pris en charge par les.
Voilà. C'est-à-dire que pour les jeunes, pour les enfants, la dimension pédagogique peut être utile, parce qu'on se dit faire rencontrer un harceleur et une harcelée, c'est pas forcément la meilleure idée, Anaïs Condomine. Bah, en fait, vrai. Ça marche à cet âge-là.
Ça, est-ce que ça fonctionne? Alors après, moi, je suis pas dans leur position. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, ils se connaissent généralement. Ils partagent la même classe ou le même établissement. Alors quand on a pu échanger avec une assistante sociale auprès des élèves, par exemple, qui effectivement va jouer les médiatrices. Et donc là, on va arriver à trouver des portes de sortie, etc. Voilà.
Alors vous évoquez hein, les risques de suicide dans le livre, mais sans aller jusqu'à cette extrémité, il y a le mal-être qui grandit et on sent effectivement très très bien, Myriam Leroy, à travers votre roman, l'évolution psychologique de votre narratrice, psychologique à travers la dépression, mais aussi physique. Et là, on en arrive effectivement aux yeux, mais il n'y a pas que les yeux. Là, on est dans quoi? On est dans une forme de manifestation psychosomatique?
Oui, c'est ça. C'est une somatisation assez littérale, parce que le corps somatise en général de manière assez littérale et parfois même un peu grotesque, quoi. Là, en l'occurrence, la narratrice, elle développe en priorité des problèmes aux yeux parce qu'elle ne veut plus voir, elle ne veut plus lire.
Voilà, donc c'était aussi une métaphore finalement de son état psychique à travers ses yeux.
Oui.
Et elle va voir différents spécialistes. Il manque que le rebouteux, presque d'une certaine
oui.
façon, parce que c'est terrible à dire, parce qu'on sent effectivement sa souffrance, mais la succession de praticiens d'un genre différent permet un petit peu d'alléger aussi un petit peu l'ambiance, quoi. On est un petit
oui,
peu oui. dans le ridicule, quoi.
Oui, un peu comme dans un film de Nanni Moretti. Elle court dans tous les sens pour savoir ce qu'elle a. Personne ne sait, mais tout le monde a son avis. Et là encore, elle est objectivée. On lui dit c'est ça ou c'est pas ça. Et elle est comme une feuille morte balayée par le vent d'un praticien à l'autre. Mais c'est aussi parce que les institutions je ne sais pas si elles ne font pas leur boulot, mais en tout cas ne la soutiennent pas, en tout cas, et n'ont pas de réponse par rapport au mal qui la ronge, qu'elle développe tous ces problèmes, qu'elle somatise et qu'elle est obligée de se tourner vers des praticiens tout à fait excentriques pour certains.
Mais ça va, alors, on peut effectivement de temps en temps, en lisant votre livre, avoir envie de sourire, mais ça va quand même très très loin, parce que dans le cyberharcèlement, ça peut aller jusqu'à des menaces de viol, ça peut aller jusqu'à des menaces de meurtre, des appels au meurtre même, hein, d'une façon générale. Alors, Naïs Condomine, vous avez donc vous-même été victime de ce genre de pratique. Est-ce que vous avez compris le ressort, les raisons de tout cela lorsque ça peut arriver effectivement à ces extrémités-là?
Quand on me menace de viol?
Par exemple,
c'est le sexisme.
C'est le sexisme. Ça va pas plus loin que ça. Ça va pas plus loin que ça.
Si l'on cite une femme depuis la nuit des temps,
en menaçant de la violer.
Ou en la violant.
Mais est-ce qu'il y a une explication, une logique? Vous avez peut-être interviewé, je sais pas, des spécialistes, des psychologues, des sociologues, etc. Est-ce qu'il y a une explication, une logique à la mécanique de la haine et à cette surenchère qu'on évoquait tout à l'heure?
C'est ce qu'on explique dans le livre. C'est pour nous, c'est la continuité de ce qui se passe dans la rue ou dans tous les milieux, dans tous les secteurs, dans tous les milieux sociaux. On est sur des mécaniques d'exclusion, de domination. Et pourquoi ce serait différent en ligne? C'est exactement la même chose.
C'est donc plus exacerbé, simplement.
Ça peut être exacerbé par un effet de masse, etc. Quand on reçoit 10 ou 20, 100 menaces de viol, d'un coup, ça fait bizarre, mais en fait, il suffit d'une seule pour que ce soit terrible. Et pour moi, les logiques sont, vous parlez de logique, les logiques sont exactement les mêmes que dans une vie non numérique.
Voilà, donc votre livre, Emmanuel Friedman et Anaïs Condomine, commence en évoquant le cas de Nadia Dame, vous avez évoqué son nom tout à l'heure, donc journaliste française harcelée suite à des chroniques à la radio, hein, sur la radio Europa. On n'est pas très très loin, finalement, de Myriam Leroy, hein, à travers ce personnage.
Oui, bien sûr. Alors, Nadia Dame, pour le coup, je crois que c'était des raids. Oui, c'est plus ou moins les mêmes ressorts terribles, mais la ressemblance est évidemment très troublante.
Mais les journalistes ou animateurs, les personnalités publiques, les célébrités, on évoquait tout à l'heure les femmes politiques, mais les chanteurs, les acteurs, les écrivains, sont des cibles privilégiées?
Oui, bien sûr.
Emmanuel Friedman.
Ouais, je pense que c'est des cibles privilégiées parce qu'on les voit, mais n'importe qui risque de se faire harceler. D'ailleurs, en tout cas pour les femmes qu'on a pu interviewer, le risque, en fait, c'est de les réduire au silence, c'est-à-dire parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont pas envie que ça recommence, soit qu'elles suppriment leur compte, soit qu'elles ne parlent plus, soit qu'elles font attention à ce qu'elles vont dire. Et ça, c'est vraiment très grave parce que tout le monde a le droit de s'exprimer. À part évidemment pour prôner le racisme, l'antisémitisme, on rappelle que ça c'est pas des opinions, mais un délit. Sinon, tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a droit d'être sur les réseaux sociaux, comme disait Anaïs, on en a besoin pour travailler, on en a besoin pour se parler, et ça c'est très très grave de faire peur aux gens, c'est un peu le résultat de ça, quoi. C'est vraiment une espèce de méfiance des cibles potentielles.
Et ceux qui utilisent le net comme moyen de travail, Anaïs Condomine en parlait tout à l'heure, sont aussi des cibles. Vous évoquez par exemple deux cas assez emblématiques, c'est le cas de Florence Porcel et de Marion Seclin, donc de vidéastes. Quelques mots peut-être sur ces exemples qui sont devenus un peu, oui, enfin vraiment emblématiques finalement du cyberharcèlement sur le net.
Par exemple sur Florence Porcel, ce qui est aberrant, c'est que donc elle parle de physique, c'est ça, hein, et que en gros on ne lui parle que d'un petit détail anatomique. Voilà, la plupart des commentaires, bon maintenant ça s'est un peu tassé quand même, parce qu'elle en a fait elle-même une vidéo, mais les commentaires qu'elle avait, c'était sur un problème physique. C'est quand même très décevant pour quelqu'un qui fait des heures à faire une vidéo qui explique des tas de concepts qu'on ne lui parle que de ça, quoi. C'est vraiment encore une fois là je pense qu'il y a un problème empathique, c'est-à-dire je pense qu'il faut commencer à apprendre aux gens que ce qu'on n'a pas envie qu'on nous dise à nous, il faut pas le dire aux autres. Voilà, c'est vraiment, faut faire attention à ce qui peut blesser l'autre, quoi.
Voilà, et parmi les victimes, il y a effectivement beaucoup de ceux qui ont une forme d'aura médiatique, ceux qui ont fait d'Internet l'espace principal de leur activité. Et Amélie Beaucourt, les exemples ne manquent pas.
À toute heure, à toute minute, à toute seconde de la journée, je reçois des menaces de mort, des commentaires atroces.
T'es moche de la tête aux pieds, t'as raison de tout refaire.
On va te niquer, connard, ta mère,
est une grosse pute.
T'es une grosse connasse, t'es grosse, t'es moche.
Putain, barre-toi salope. Tu devrais te suicider, tu mérites de mourir.
Ils s'appellent Bilal Hassani, Enjoy Phoenix, Evil Squid ou encore Aurélie. Ils sont youtubeurs et comme tant d'autres, ils sont chaque jour victimes de cyberharcèlement à base de messages haineux comme on vient d'en entendre. Insultes racistes, homophobes, transphobes, attaques sur le physique ou encore invitations au suicide. Ces mots lâchement envoyés par écran interposé sont d'une violence inouïe. Une violence qui consterne Charles Cohen, un niçois de 23 ans, qui un jour a dit stop.
En Europe, le cyberharcèlement, c'est 60 suicides par an. On voit que les suicides, mais on voit pas les dégâts moraux qui sont invisibles de l'extérieur. Le cyberharcèlement entraîne des dépressions, entraîne des difficultés à se concentrer à l'école, entraîne une perte de confiance en soi qui peut durer 30 ans. Il y a également d'autres vrais problèmes de fond, comme par exemple énormément de journalistes qui, en 2019, n'osent plus s'exprimer publiquement sur Internet, de peur de se faire insulter. Et ça, c'est une autocensure qui est très grave dans un pays comme la France.
Pour ça, sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle des modérateurs, ou un système de modération en tout cas.
Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils ont une intervention qui est pas préventive, mais curative. C'est-à-dire qu'ils interviennent une fois que le mal est fait, et 4 jours après. Il est là le vrai problème.
Alors, pour prévenir plutôt que guérir, ce jeune entrepreneur a mis au point une application qui va plus vite et plus loin que les systèmes existants. Ça s'appelle Bodyguard, un mot anglais qui signifie garde du corps, et ce protecteur virtuel va protéger individuellement chaque utilisateur victime de cyberharcèlement.
Via les réglages de Bodyguard, on peut choisir ce qu'on souhaite supprimer ou non. Si vous voulez laisser les moqueries sur le physique, vous pouvez laisser les moqueries sur le physique. Si vous voulez, même si je ne comprends pas pourquoi, laisser le racisme dans vos commentaires, vous pouvez le laisser. Je laisse vraiment la main à l'utilisateur et c'est pas à moi de fixer leurs règles de modération.
L'application ne censure pas les messages des internautes, elle n'a pas ce pouvoir, mais elle les bloque de façon à ce que la personne harcelée ne puisse pas y être confrontée. Une manière pour Charles Cohen de préserver la liberté d'expression de chacun.
95% de ce qui est supprimé par Bodyguard, c'est des choses qui sont pénalement répréhensibles. Dans le sens où là, il n'y a même pas de question de censure, c'est que c'est illégal. Pour les 5% restants, moi je dis une chose, c'est qu'il y a deux libertés. Vous avez le droit de le poster, mais vous ne pouvez pas obliger la personne à qui vous l'envoyez de le voir. Bodyguard ne peut pas supprimer un tweet. Si quelqu'un poste un tweet haineux à un de mes utilisateurs, l'utilisateur va être masqué et bloqué. Donc, il a la liberté de poster ce qu'il veut, et le tweet est toujours sur la plateforme, mais il ne peut pas obliger son destinataire à le lire.
Quant à savoir si le cyberharcèlement sera un jour éradiqué comme un virus informatique ou un virus tout court, Charles Cohen répond ceci.
Il va falloir 3 choses. Des outils technologiques, il va falloir une régulation au niveau de la loi, et il va falloir un changement de mentalité. Quand ces 3 choses seront combinées ensemble, dans le sens où, grâce aux outils technologiques, on pourra porter plainte et toucher au portefeuille tous ceux qui mettent des contenus abjects sur Internet, déjà, ça va être différent. Et quand les mentalités changeront, dans le cadre, par exemple, de Twitter, où c'est un petit peu la mode, où c'est un petit peu, on va dire, stylé de se foutre de la gueule des gens en masse, là, ça changera fortement.
L'évolution technologique a déjà commencé. La loi française, elle, commence aussi à bouger, avec notamment la proposition de loi portée par la députée Laetitia Avia. Mais pour ce qui est des mentalités, c'est plus compliqué.
Alors Anaïs Condomine, la réponse pour vous, elle est d'abord législative, elle est d'abord technologique, les deux ?
Alors moi je trouve que d'un point de vue législatif, on arrive à quelque chose qui tient la route. On a fait beaucoup de progrès, notamment en 2018, où on a commencé à pouvoir punir les raids numériques, donc c'est déjà une très bonne chose selon moi. Effectivement, la loi Avia, qui n'est pas encore validée par le Sénat, je crois, donc c'est vraiment en cours, on va voir quelle forme ça prend, vise à surtout responsabiliser les géants du web, les plateformes. Pour moi, la vraie solution, elle est effectivement dans les mentalités, mais plus que ce grand mot galvaudé, c'est vraiment simplement faire une éducation aux réseaux sociaux, faire une valorisation de l'empathie et de la bienveillance. C'est encore une fois, c'est un peu bisounours, hein, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est juste, arrêtons de nous insulter les uns les autres, tout simplement.
Myriam Leroy.
Oui, et puis je crois qu'il faut que les comportements de prédation sexistes, racistes, homophobes, etc. deviennent socialement inconvenants, que ce soit la honte en fait d'être sexiste, raciste. Or, ça n'est pas la honte, c'est même plutôt valorisé, c'est même plutôt un élément de cohésion dans un groupe encore aujourd'hui, et c'est absurde. Et la honte, elle est toujours du côté des victimes et rarement du côté des bourreaux.
Et la solution technologique alors, Emmanuel Friedman, Anaïs Condomine, vous y croyez donc Bodyguard, là, cette application-là?
Ça peut être un moyen temporaire d'arrêter effectivement du cyberharcèlement, mais à long terme, ce qui serait vraiment intéressant, c'est, comme le disait Anaïs, d'éduquer les gens effectivement aux réseaux sociaux, d'éduquer à la bienveillance, d'éduquer au fait qu'il faut simplement respecter la loi. Et
s'attaquer au mal à la racine, quoi.
Exactement, à la société, quoi.
Mais alors, ce qui étonne quand même le lecteur, Myriam Leroy, quand on découvre les aventures, si j'ose dire, de votre narratrice, c'est que, oui, le lecteur est étonné, mais ses amis sont étonnés. Samuel aussi, son compagnon, est étonné parce que c'est pas très compliqué. Elle a qu'à bloquer Denis, quoi. Elle a qu'à ne plus aller sur les réseaux sociaux. Elle a qu'à quitter Facebook, quitter Twitter et se détacher de toute cette boue qui n'arrête pas de lui tomber dessus. Et pourtant, elle le fait pas.
Mais ça, c'est quelque chose qu'on dit à toutes les personnes harcelées. T'as qu'à pas aller voir. Comme si c'était la réponse. En fait, même en allant pas voir.
Ça règle pas le problème pour la société. Mais ça règle le problème pour elle.
Pas du tout, parce que même si on n'est plus sur les réseaux sociaux, même si on n'est pas sur Internet, ça nous revient par la porte ou par la fenêtre, parce que quelqu'un va nous envoyer une capture d'écran, et puis parce qu'on sait que c'est là. Et que c'est comme un nuage, en fait, qui nous suit partout et qui ne s'arrête jamais, parce que Internet ne s'arrête jamais, et ça fait partie de la vie, et ça fera toujours maintenant partie de la vie, Internet. Donc, t'as qu'à pas aller voir. C'est vraiment la pire des réponses à donner à quelqu'un qui est en détresse parce qu'il est harcelé.
Mais est-ce que c'est pas aussi une question aussi de que chaque victime a envie aussi de savoir tout ce qu'on peut raconter sur elle, quoi, Anaïs Condomine, quoi.
Oui,
mieux vaut, à la limite, le savoir plutôt que de faire comme si ça n'existait pas.
Oui, personnellement, j'avais davantage envie de savoir si on allait venir défoncer ma porte, si on avait trouvé mon adresse personnelle ou si on avait retrouvé les photos de mes petites sœurs pour faire des photos montage sur Internet. Effectivement, je préfère savoir. C'est pour ça que moi, j'étais complètement incapable de tirer mes yeux de l'écran, quoi qu'on m'en dise. Et puis, effectivement, d'autres personnes se chargeaient aussi de m'envoyer des insultes que je n'avais pas vues. Hein, donc, c'est toujours gentil. La solution, c'est évidemment pas de couper Twitter. La solution, c'est de couper la haine à la racine.
Surtout quand Twitter est notre outil de travail et puis, c'est l'espace public. On a quand même le droit d'évoluer dans l'espace public comme tout le monde. C'est comme dire, pour pas être violé, t'as qu'à pas fréquenter ce quartier, ni cette ligne de métro. Oui, alors effectivement, ce serait sans doute plus prudent, mais c'est quand même une restriction de liberté qui est absolument révoltante.
Alors, vous avez répondu à l'une des interrogations majeures, je pense, du lecteur. L'autre interrogation, c'est mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle attend pour porter plainte? Parce que bon, au départ, vous le faites pas, quoi.
Oui, mais
vous le faites pas, la narratrice ne le fait pas.
Déjà, il faut savoir, être au courant qu'on a le droit de porter plainte, et puis il faut que la plainte ait l'œil d'un... Faut oser pousser la porte d'un commissariat et commencer à dire, voilà la photo de moi couverte de sperme, voilà les insultes où on me traite de grosse pute, grosse salope, grosse suceuse. Excusez-moi les auditeurs qui ont des enfants dans la voiture. Il y a quand même une honte qui est absurde, mais qui est, quand on est harcelé, on se dit aussi, si je suis harcelé, c'est peut-être parce que je suis harcelable, et peut-être qu'en effet je l'ai bien cherché, peut-être qu'en réalité c'est de ma faute. Donc oui, porter plainte est sans doute pas toujours, enfin ne l'était pas, maintenant je trouve que ça l'est plus, le premier réflexe quand on est confronté à ces comportements-là.
Mais lorsque votre personnage s'adresse à un policier, on n'a pas l'impression qu'elle ait accueilli les bras ouverts, on n'a pas l'impression je dirais pas d'une empathie énorme, mais d'une compréhension finalement de ce qui lui arrive.
Mais en fait, dans le harcèlement, il y a trois membres à l'équation. C'est un triangle. C'est le harceleur, le harcelé, et puis les autres. Et les autres, c'est très grand. C'est l'entourage, c'est les proches, et puis c'est les inconnus, c'est les institutions, etc. Et les autres, jusqu'il y a peu et encore aujourd'hui, ne savent pas quoi faire avec ça, parce que pour eux, c'est abstrait. Subir un raid, être harcelé sur Internet, parce que c'est ça qu'ils pensent, que c'est sur Internet qu'on est harcelé, alors que c'est encore une fois via Internet qu'on est harcelé. Ils ne peuvent pas imaginer que c'est concret. Ils se disent, être harcelé sur Internet, c'est comme être tabassé par un hologramme, quoi. C'est quelque chose qui ne peut rien faire, de mal.
Mais les autorités, Emmanuel Friedman, les autorités de police, de gendarmerie ou de justice, ont-elles compris, pour vous, l'importance des faits, ou elles ont tendance à sous-estimer la gravité des faits?
Elles commencent à être formées et commencent à comprendre, mais effectivement, ça va doucement de ce côté-là. Hein. Je pense que ça va assez doucement. Je pense que les commissariats sont souvent débordés, voient pas forcément. Ça dépend quel interlocuteur sur quel interlocuteur vous tombez. C'est pas forcément facile. Moi. Et effectivement, je pense que en tout cas par rapport aux gens qui vous entourent, on se dit à chaque fois qu'est-ce qu'elle a fait. Mais là, en fait, on n'a rien fait. Hein. Quand on est victime de ça, on n'est pas responsable. C'est-à-dire, on est vraiment victime. Il faut pas se dire elle a cherché, elle aurait pas dû. On a le droit de dire ce qu'on veut. On a le droit d'argumenter. Et rien ne justifie d'être menacé de viol, d'être insulté. Rien, absolument rien.
Que risque aujourd'hui un cyberharceleur, Naïs Condomine?
Au maximum maximum 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Donc ça vaut pas le coup, ne harcelez pas.
Voilà, sur quel chef d'inculpation? Parce qu'il peut y avoir aussi d'autres choses, puisque par exemple, effectivement, l'antisémitisme, le racisme sont des délits. Donc on peut rajouter comme ça les peines de cyberharcèlement plus...
Et d'ailleurs,
le reste,
c'est pour
en fonction
ça que
de la teneur des propos.
C'est difficile à comptabiliser aujourd'hui les condamnations pour cyberharcèlement même, parce que souvent ça rentre dans d'autres qualifications, menace de mort, menace de commettre un crime, racisme, antisémitisme, etc. Donc effectivement, ça peut se cumuler. Là, en l'occurrence, le délit, c'est commettre du harcèlement via un moyen de communication en ligne.
Mais à partir de quel moment est-ce qu'on peut juridiquement parler de harcèlement? Il faut réellement 1, 2, 3, 4 messages, combien? Parce que envoyer un message qui peut être mal perçu, il y a quand même une part d'interprétation là aussi là-dedans.
Alors jusqu'en août 2018, le harcèlement s'était qualifié par la répétition. Effectivement, il faut qu'il y en ait plusieurs pour que ce soit du harcèlement. Depuis la loi Schiappa, pour lutter contre le sexisme et les violences sexuelles, il suffit d'écrire un seul message dans une masse qui constitue un raid pour être effectivement poursuivi pour cyberharcèlement.
Voilà, et tout ça vous l'expliquez effectivement très très bien, parce qu'il y a à la fois la dimension sociologique, mais aussi la dimension pratique, hein, qui est vraiment très très bien expliquée dans ce livre « Cyberharcèlement, bien plus qu'un mal virtuel » d'Anaïs Condomine et Emmanuel Friedman, paru aux éditions Pygmalion. Merci beaucoup, merci également à vous Myriam Leroy. « Les yeux rouges », un roman à lire aux éditions du Seuil, un livre que 5 d'entre vous vont donc pouvoir gagner en répondant à la question du jour, alors par message privé sur Facebook, vous voyez. Et à la fois le pire et le meilleur sur les réseaux sociaux, c'est donc un moyen, on le répétait, un moyen de communication. On peut donc trouver aussi le meilleur et notamment donc gagner des livres. La question est la suivante, où travaille la narratrice du livre de Myriam Leroy? À vos claviers et bravo à nos 3 gagnants du jeu de l'émission de mardi dernier, Ismaël Landry Kemde de Ouagadougou, Jean-Pascal Cabessa de Kinshasa et Mohamed Koumbassa de Dakar. Ils recevront le livre de Claro. La bonne réponse à la question de mardi était Tarantula Ghoul.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Partons à présent à Inhotim, au Brésil, à une vingtaine de kilomètres de Brumadinho, dans l'état du Minas Gerais. C'est le plus grand musée d'art contemporain à ciel ouvert du monde. Pas moins de 1000 hectares de végétation luxuriante, dont 140 visitables. 5 lacs et un immense jardin botanique qui font autant partie de la visite artistique que les 23 galeries et œuvres monumentales que l'on y trouve. Bref, Inhotim n'est pas qu'un musée ni un parc naturel, c'est un véritable ovni qu'a visité pour nous notre reporter Sara Cozzolino.
Visiter Inhotim en une journée est beaucoup trop ambitieux. À bord d'une voiturette électrique, Janaína Silva, de l'équipe pédagogique du musée, nous emmène découvrir une partie de ce parc merveilleux où les œuvres et le paysage sont tout aussi importants. Nous nous dirigeons vers une installation ronde en verre qui semble sortie de terre.
Nous allons maintenant visiter le travail de l'artiste américain Doug Aitken. C'est un site spécifique, une œuvre faite pour cet espace. Elle a mis 5 à être pensé et élaboré. Et je pense que c'est très important d'observer le paysage qui nous entoure, qui dialogue toujours avec l'architecture, avec l'œuvre d'art. Ici, nous sommes au sommet le plus haut d'Inhotim. Depuis l'œuvre, on peut observer le parc et la commune de Brumadinho.
Ce que nous entendons, c'est le son de la terre, ou plutôt de son mouvement, le mouvement des plaques tectoniques. L'œuvre s'intitule « Pavillon sonique » et consiste en un trou profond de 200 mètres dans lequel sont placés des petits micros et amplificateurs.
Et un son constant.
C'est un son constant, en direct.
Inhotim a été fondé par un mécène visionnaire, Bernardo Paes. Cet entrepreneur du secteur minier, féru d'art contemporain, a commencé à exposer à l'Institut les œuvres de sa grande collection dans les années 1980 jusqu'à l'ouverture au public en 2006. Venue du sud du pays, Marilia Severo reste bouche bée devant la beauté du parc.
Le parc est merveilleux, les œuvres sont fantastiques.
Ce parc est merveilleux, les œuvres sont fantastiques. Elles stimulent tous nos sens, la vision, l'odeur, l'ouïe. Et ça fait aussi réfléchir sur notre état à l'intérieur de cette forêt.
Marilia sort tout juste de l'installation sonore de Janet Cardiff. Dans une salle avec vue sur la forêt, 40 enceintes sont disposées en cercle et reproduisent le son de 40 chanteurs. Ils interprètent une musique médiévale composée pour l'anniversaire de la reine Elisabeth en 1575. Pour Renata Bitencourt, directrice de l'Institut, les visiteurs sont transcendés par la visite de cet espace unique en son genre.
Il y a un rôle plus grand, le contact avec l'art, avec cette ambiance, la nature, tout ça nous permet de nous sentir plus humains, plus grands que cette course, cette routine quotidienne de travail.
Avec près de 4500 espèces différentes, parfois rares et provenant de tous les continents, Inyochim a aussi une vocation d'éducation environnementale et écologique. Juliano Borin est le conservateur botanique du parc.
Au-delà de la beauté, on essaie d'ajouter une dimension informative sur l'usage des plantes, comment les peuples traditionnels l'utilisaient, à quoi elles nous servent aujourd'hui. Car notre société dépend énormément des plantes. Comme ça, notre public apprend à connaître les plantes, leur usage et s'intéresser à leur nom. De cette façon, il pourra en prendre soin, car on ne prend soin que de ce qu'on connaît.
Et cette connaissance reste accessible. L'entrée du parc à 10 euros en plein tarif est gratuite le mercredi et tous les jours pour les habitants de la ville voisine de Brumadinho. Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Dans un instant, le journal sur la radio du monde. On se retrouve demain avec le chanteur et musicien malien Habib Kouaté pour son album Karifa chez Contre-Jour. Et vous m'en direz des nouvelles.